Superbe Ciné, séquence 14.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarf Sensé, ça tourne.
Et action! Bonjour à tous, c'est Joris au micro, Scarf Ciné. Du 1er au 5 avril, 32e festival international du grand reportage d'actualité, documentaire et société, le FIGRA. À cette occasion, zoom sur un documentaire soutenu, tourné et projeté dans ce festival. Portrait de René Dumont, Géant Vert, d'Anne-Charlotte Gouraud, sélectionné dans la catégorie Terre d'Histoire. Autre film qui a eu un écho en région, Radio Prague, Les Ondes de la Révolte, en salle depuis le 19 mars, prix du public au dernier Arras Film Festival. Et puis Julien Menanteau, il sera dans cette émission pour un film tourné en région, Lads, un métrage qui met à l'épreuve Ethan dans la plus violente des courses au galop. Sur Radio Scarpe Sensé et Radio Club, découvrez le documentaire René Dumont, Géant Vert.
Moteur, ça tourne en région. Action sur les productions tournées chez vous.
Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Merci mes amis.
Pull rouge et verre d'eau à la main en direct, parlant de la pollution, de l'air et de l'eau, René Dumont est perçu comme un prophète du malheur en 1974 lors de la campagne présidentielle, lorsqu'il est le premier candidat écologiste. Dans votre documentaire, donc diffusé au FIGRA et actuellement sur weo.fr, vous partez de cette séquence et vous retracez le parcours de ce professeur d'agronomie qui est passé de productiviste à écologiste. Vous faites le récit ici, finalement, d'un lanceur d'alerte.
Oui, le départ de ce projet de film documentaire, c'est le souvenir de ce pull rouge. Alors, je n'étais pas née quand il y a eu cette campagne de 1974, mais j'avais ce souvenir étudiante en histoire de ce vieux au pull rouge, premier écologiste, candidat un peu farfelu, peut-être pas sérieux. Je me suis servi des 50 ans de cette première candidature écologiste à une élection présidentielle pour refaire sa trajectoire. Et j'ai très vite vu qu'en fait, c'était un visionnaire et pas seulement sur l'écologie, sur le pacifisme, sur l'anticolonialisme. Il a régulièrement fait des choix forts, mais à la fois sur des données concrètes et des constats concrets. Aujourd'hui, quand vous parlez avec ses élèves ou des agronomes, il s'est en fait quasiment pas trompé. Et en tout cas, quand il s'est trompé, il l'a toujours dit et assumé.
Avec des témoignages, hein, comme vous le dites, avec ses anciens élèves, des agronomes, des archives personnelles, on entend sa voix dans ce documentaire, et historique, vous racontez sa vie qui a commencé très vite dans l'horreur, hein, avec la Première Guerre mondiale, où il a vu en effet l'horreur, la barbarie. Et puis, juste après, il intègre l'Institut national d'agronomie coloniale. Quelle était alors sa vision de l'agriculture à cette époque ?
Dans l'entre-deux-guerres, je n'ai pas consacré beaucoup de place dans le documentaire à ces travaux dans l'entre-deux-guerres. Il commence à travailler sur la riziculture. En fait, c'est une céréale qui le fascine. C'est pour ça qu'il va aller en Indochine auprès des ingénieurs coloniaux, qu'il va en fait aller dans les rizières, constater que la France ne fait pas grand-chose pour les paysans indochinois. Et il va faire un livre qui est encore considéré comme un livre référence sur la riziculture, et dedans il met en avant vraiment le travail des populations locales, notamment des femmes, leurs soucis accordés à l'écologie, en tout cas dans la rizière, et il va rentrer et faire ses travaux sur la riziculture tout en critiquant le schéma colonialiste de commerce avec l'Indochine. René Dumont est très jeune, frappé par la misère et la faim. Et donc, il la voit aussi en Indochine, où il y avait des famines organisées hein, pour l'exportation du riz. Après la Seconde Guerre mondiale, il va être un agronome productiviste. C'est lui qui va participer au grand plan de modernisation de l'agriculture française. Et lui, à ce moment-là, son souci principal. Et ça a toujours été son souci principal, je pense, c'est vraiment de nourrir les gens, nourrir la planète. Et son virage écologiste, qui n'est pas totalement une conversion, c'est pour ça que je vous parlais de son intérêt pour l'écologie des rizières dans les années 20 en Indochine. Son virage écologiste et son retour sur l'agriculture productiviste, il le fait vraiment aussi dans l'intérêt des populations et se dire que là, on est en train d'épuiser la terre, qu'on est allé trop loin, il faut changer de modèle et intégrer à ce changement de modèle, par exemple, le malthusianisme démographique, c'est-à-dire qu'il faut faire moins d'enfants parce qu'il n'y aura pas de terre et de nourriture pour tout le monde.
La sécheresse dure depuis 3 ou 4 ans. Elle revient une fois tous les 60 ans, mais auparavant, elle portait sur des pays moins peuplés. Maintenant, avec la densité de la population, on ne peut plus faire autant de jachères qu'autrefois, l'humus ne se reconstitue plus, et par conséquent, l'érosion attaque les éléments fins du sol, le limon et le sable fin.
Est-ce que c'est en voyant ces femmes, ces enfants, en découvrant aussi cette pauvreté et cette inégalité du partage, c'est à partir de ce moment-là que son engagement va naître, c'est ce déclic, c'est cette rencontre avec la population.
René Dumont, il a dû faire, je pense, deux fois le tour du monde. Il y a peut-être le Groenland qu'il n'a pas visité. Ce qui est fascinant dans son parcours, c'est ses anticipations, c'est comment il est régulièrement précurseur sur ses engagements. Il est anticolonialiste dans les années 20. Dans les années 20, il y a peu de gens en France qui sont anticolonialistes. Les socialistes sont colonialistes, sont pour la mise en avant de l'empire colonial. Donc lui, dès les années 20, c'est très clair. Pour lui, il y a un problème dans le modèle de développement des empires. Et après, ça va encore se renforcer quand il va être conseiller agricole pour les pays décolonisés où bah, il va constater l'écart qui a été creusé hein, par le système colonial et continuer à le dénoncer jusqu'à la fin de sa vie. Il avait, je pense, un vrai projet de société incluant toutes les grandes injustices du monde.
On fait un petit retour en arrière et durant la Seconde Guerre mondiale, il va écrire pour des revues techniques agricoles, ce qu'on apprend dans votre documentaire, puis il va participer à la reconstruction agricole avec des méthodes venues d'Amérique. C'est à lui qu'on doit notamment l'américanisation des pratiques et la production intensive. Ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aussi dans les écoles, mais c'est vrai que voilà, ça vient aussi de lui. Il fait partie de cela. Reconnu pour avoir amené le productivisme, il va alors être sollicité dans le monde entier hein, en tant qu'expert, on l'a dit tout à l'heure, pour aller au plus proche des habitants et pas que. Et à ce moment-là, on a du mal à croire, à ce moment-là du documentaire, on a du mal à croire qu'il sera quelques dizaines d'années plus tard avec un verre d'eau en direct pour prôner la sobriété. C'est vrai qu'il y a un décalage dans sa vie, dans ce documentaire aussi.
C'est un aboutissement, je pense, d'une réflexion initiée quand il est témoin à 10 ans de la Première Guerre mondiale et des désastres faits par la guerre aux hommes, mais aussi aux terres agricoles du nord de la France. Et je pense que son souci premier, ça a toujours été de nourrir la planète, nourrir les hommes et les femmes. Donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il fait ce qu'il sait faire, augmenter la productivité agricole, c'est pourquoi il a été formé à l'École nationale d'agronomie. Il favorise ce modèle pour juste nourrir les Français et les Françaises. Et au fur et à mesure, il se rend compte que la terre s'épuise, qu'il faut changer de méthode. Et il s'en rend compte quand même assez tardivement. Il a déjà 70 ans, en fait. Mais à 70 ans, il est capable de dire il faut faire machine arrière, tout repenser nos modèles de développement agricole, notre modèle d'échange aussi. Il se souciait beaucoup d'économie également et d'économie agricole, d'échanges mondiaux. Et finalement, quand on se plonge vraiment dans sa vie, dans sa capacité à systématiquement douter, penser contre lui-même, c'est pas si étonnant. Ce revirement qui en fait n'en est pas un, c'est juste on va aller droit dans le mur si on continue comme ça. Il y a une explosion démographique, on va pas pouvoir produire plus, donc il faut désormais faire attention à la terre et cesser l'explosion démographique qui va mener l'humanité à sa perte.
Et c'est un ouvrage aussi, Halte à la croissance, rédigé par le Club de Rome, qui est un groupe de réflexion de scientifiques, d'économistes et ainsi que des industriels, qui critique aussi le capitalisme et la société de consommation. Il va alors lui aussi écrire un livre, et je pense que ça va être le livre de sa vie, « L'utopie ou la mort », où il écrit partager l'eau, la terre, les ressources. Et c'est vrai que c'est un homme à contre-courant de toutes les pensées politiques, alors que à cette époque, avec Pompidou, c'était les autoroutes, c'était les avions.
On est dans les Trente Glorieuses, on est au moment du Club de Rome. Alors, ce qui est intéressant, je crois que je ne l'ai pas mis dans le documentaire, mais il avait été sollicité par le Club de Rome pour participer aux recherches. Il avait refusé, critiquant le fait que ses études étaient financées par des industriels capitalistes. Le Halte à la croissance, il considérait en fait, c'était juste une preuve scientifique, enfin, plusieurs preuves scientifiques que le modèle de développement n'était plus le bon, en tout cas qu'il allait épuiser les ressources en l'état actuel des connaissances que nous avions sur les ressources. C'est important parce qu'il annonçait la fin du pétrole, mais toujours en disant en l'état actuel des connaissances des ressources. On en a trouvé depuis plus, donc ça continue, mais ça n'empêche pas la pensée critique que le Club de Rome avait formulée. Donc, il trouvait que le Club de Rome n'allait pas suffisamment loin parce que pour lui aussi, il faut être anticapitaliste pour être juste. Et donc forcément, en 1974, il est à contre-courant parce qu'il est beaucoup trop écologiste pour les socialistes. C'est vraiment un électron libre. Il va être, pour les économistes, trop agronome. Il a un côté aussi, il considère que l'État doit vraiment prendre en charge l'économie, la solidarité, ce qui l'éloigne aussi des libéraux. Donc, c'est compliqué de l'attacher à un parti. D'ailleurs, il a été quelques mois encarté au PSU, et puis les écologistes, il a juste voulu les aider et aider à porter une parole d'écologie politique, et après il est reparti sur le terrain.
Sur le terrain, et puis en descendant d'avion, un groupe l'interpelle pour dire « vous ne pouvez pas nous représenter ». Dans l'élection présidentielle, et il réfléchit. C'est comme ça qu'il est devenu le premier candidat écologiste en France.
C'était pas le choix premier des écologistes. Les écologistes, c'était une nébuleuse d'associations dans les années 70, des associations qui étaient attentives au risque nucléaire, à la pollution, à la perte de la biodiversité. Et lui, à l'époque, c'est un expert qui est appelé encore dans tous les pays du monde, notamment les pays décolonisés, pour proposer des modèles agricoles. Et c'est après, effectivement, avec l'utopie ou la mort, où les écologistes se disent que ça peut être un bon candidat. Et lui, il se trouve qu'il a 3 semaines de sa vie à leur consacrer à ce moment-là. Et il leur offre en disant « je veux bien porter cette parole ».
Nous manquerons d'eau en l'an 2050 du fait de l'augmentation constante des utilisations urbaines. Par conséquent, il faudrait prévoir que la population du monde serait raisonnable d'arrêter son explosion et le développement industriel, le développement urbain spécialement, n'est pas sans conséquences graves sur l'avenir du monde.
Avec ses idées d'interdire la voiture, prôner le vélo, promouvoir le solaire, le recyclage, aujourd'hui...
C'est ça, le tri des déchets, aujourd'hui, tout ça est rentré dans notre vie courante et pourtant, il n'a laissé aucun héritage fort. Peu de personnes se souviennent de lui, de ses idées. Il est passé pour un fou en 1974. Et finalement, 50 ans après, certains points de son programme sont intégrés à la vie commune.
On le voit par ses idées et par ce chiffre. Il a fait 1,32% donc des voix du suffrage. On voit rien qu'avec ces chiffres et en cet homme que le chemin parcouru et l'évolution surtout de la société. Aujourd'hui, comme vous dites, le recyclage, le solaire, c'est dans notre vie, c'est dans notre quotidien et il a fallu vraiment du temps
ça semble jamais être des urgences. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et c'est ce qu'il disait, c'est qu'en fait, les paroles scientifiques étaient là. Il prêchait pas seul dans le désert. Il y avait plusieurs scientifiques à travers le monde qui alertaient. Et jamais les pouvoirs publics semblent capables d'infléchir les modèles de développement malgré les preuves scientifiques. Et on le vit encore aujourd'hui où la transition écologique ne va plus être une priorité et on choisit de réarmer pour se préparer à la guerre.
René Dumont a cessé d'alerter et on va dire que il est mort en colère de ne jamais avoir été entendu. Est-ce que c'est un... Pour prendre un autre terme, c'est un peu un résistant de l'écologie.
Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas aujourd'hui une boussole ou une figure tutélaire pour les écologistes. Vraiment, je pense qu'il était convaincu de ce qu'il prêchait. C'est pas, il aimait pas du tout qu'on le considère comme un prophète. Il aimait pas du tout avoir raison. Il était juste en colère parce qu'il l'avait vu. L'absurdité du monde, des injustices des échanges agricoles, les conséquences de la guerre, il les a vus et revus dans sa vie et je pense qu'il était blessé de se sentir un peu seul dans ses combats.
Que raconte ce documentaire sur notre regard sur l'agriculture aujourd'hui?
Je pense que c'est le décalage entre les institutions publiques et le travail des paysans, la connaissance des paysans de leurs terres, des problèmes de leur terre, des modèles agricoles. Lui était vraiment aux côtés des paysans. C'est pour ça aussi que je pense qu'il n'a jamais été... alors, sauf pendant l'étape du remembrement, mais il a reconnu aussi avoir fait trop vite et trop mal. Mais je pense que ça raconte l'importance d'être sur le terrain et d'avoir une connaissance de terrain scientifique sur les problèmes de nos sociétés.
L'héritage de René Dumont, il est encore présent aujourd'hui. Alors, il y a peu de rues, hein, René Dumont, mais on peut dire qu'on est un peu tous les enfants de René Dumont parce que aujourd'hui, on a cette conscience écologique dans nos vies et on doit encore faire beaucoup d'efforts. Hein, voilà. Rien n'est gagné.
Je ne sais pas que vous parlez avec ses anciens élèves, les gens qui l'ont connu. Ils sont aujourd'hui contents qu'on en reparle et qu'on rappelle qu'en fait, qu'on avait ce professeur d'agronomie qui avait anticipé beaucoup de choses de nos faillites. Peut-être qu'il peut réapparaître. Il est quand même assez tombé dans l'oubli. Peu de gens le connaissent ou l'identifient ou connaissent ses travaux. Peut-être qu'on est ses enfants sans qu'il le sache, sachant qu'il n'était d'ailleurs pas favorable, vraiment pas favorable. Il a lui-même eu qu'un enfant. Il demandait aux sociétés occidentales de faire moins d'enfants pour arrêter d'affamer le tiers-monde. Peut-être qu'il redeviendra une figure tutélaire, mais peut-être ça peut aussi passer par le pacifisme et les soulèvements pacifistes qui pourraient surgir dans les mois à venir également.
Le documentaire est à découvrir donc au FIGRA sur WEO et sur LCP aussi. Dernière question, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce documentaire? Il y a une conscience aussi écologique, un changement de regard de votre part?
Pour moi, c'est la vie de René Dumont, et c'est en ça, enfin, on dit que c'est 53 minutes. Il y a, par exemple, René Dumont connaissait très bien la Chine, il a fait plusieurs voyages en Chine. On pourrait faire 52 minutes sur René Dumont en Chine. Cette campagne présidentielle, c'est rien dans sa vie, c'est 6 mois, c'est ce qui reste de lui aujourd'hui, mais en fait, son parcours intellectuel, scientifique, c'est un exemple de rigueur, de doutes, de convictions forgées dans l'expérience du terrain.
Allez découvrir ce très beau documentaire René Dumont, Géant Vert d'Anne-Charlotte Gouraud. Donc notre invité ici dans Scarp Ciné à l'occasion de la projection de votre documentaire au FIGRA à Douai. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Le bien public, c'est l'air que nous respirons, c'est l'eau de nos rivières qui sert aussi bien à la vie de tous les jours. C'est l'eau potable dont nous avons besoin, c'est l'eau pure dont nos usines ont besoin. C'est non seulement l'activité écologique, la vie biologique qui est menacée, c'est toute l'activité économique. Si nous continuons notre développement acharné, notre pillage du tiers-monde, notre croissance sauvage, eh bien, c'est l'effondrement total de notre civilisation avant la fin de ce siècle.
Scarpciné, dans les coulisses des tournages de films et séries au coin de votre rue.
Hommage à la Rosetta des frères Dardenne, Émilie Dequesne, qui nous a quittés le 16 mars dernier dans le film Pas son genre de Lucas Bellevaux, tourné dans la Rajoie. Elle y chante I Will Survive de Gloria Gaynor. Émilie Dequesne, c'est 25 ans de carrière, 59 films et séries tournées, 8 prix. Elle reste et restera Jeanne dans La fille du RER, Muriel dans À perdre la raison. Pauline dans Chez nous, Madame Péricourt dans Au revoir là-haut, son combat, ses rôles et son film resteront éternellement gravés sur les bobines de cinéma. D'image, on passe au son avec un coup de cœur vu au Haracin Festival, coup de cœur que partage le public puisqu'il a reçu un prix du public. Il, c'est Jerry Mald pour... Radio Prague, les ondes de la révolte. Nous sommes en mai 68, à la veille du printemps de Prague. Thomas décroche un emploi à la radio et travaille pour des journalistes qui défient la censure. Soumis à un chantage de la police secrète, parviendra-t-il à la déjouer sans trahir ses idéaux ? Le récit d'un combat pour la liberté qui a marqué l'histoire. Rencontre avec le cinéaste et Aurore Cahan, interprète.
Des terris au beffroi, le cinéma du Nord s'invite chez vous sur Scarpe Sensée.
Au Arasfun Festival, on parle de Radio Prague, les ondes de la révolte avec son réalisateur, un thriller politique pendant le printemps de Prague, par le biais de la radio. La radio, ici, c'est aussi faire le portrait de ces hommes, de ces femmes qui ont marqué un pays.
It's very hard to talk about my intentions, but let's say making
this film, de parler de mon intention, mais en fait, je voulais, quand j'ai travaillé sur le film, j'ai réalisé qu'un petit groupe en fait de personnes peut vraiment changer énormément de choses.
Et c'est aussi sur la portée de la voix, aussi sur le média radio, sur l'importance de la voix.
Yeah, I think it will never ever happen again that there will be one medium that would have such power.
On ne revivra jamais en fait la même chose en fait, avoir ce un média qui a autant de pouvoir que la radio en avait dans les années 60. On ne réalise pas ce que c'était parce que jusqu'à ce moment-là, il y avait les livres, il y avait un petit peu de télé, mais la radio était un média qui était si nouveau et que à part les prêches en fait des prêcheurs, il n'y a jamais eu en fait de voix masculine qui puisse exprimer l'émotion et l'information en fait de manière si potente.
Ce personnage, justement, de Thomas, il vient de différents journalistes aussi qui ont couvert le printemps de Prague.
Actually, I read about three technicians that were very like.
Et en fait, Thomas, en fait, c'est un personnage en fait que j'ai développé à partir de trois journalistes. J'ai lu en fait l'histoire en fait de trois techniciens qui ont été absolument cruciaux dans l'entretien en fait de la radio, dans la maintenance de la radio et pendant en fait le live, enfin le l'émission en fait, les émissions pendant l'invasion. Donc en fait, ça a été un mélange en fait de ces trois techniciens. C'est aussi un personnage en fait qui est fragile, qui a cette figure paternelle dans son grand frère parce que les deux en fait sont orphelins et la volonté c'était d'échanger. Ce que, en fait, c'est un personnage en fait qui a peur. Et l'idée c'était de partager avec le public ce que c'était justement, ce que le citoyen moyen, quelle était l'expérience, qu'est-ce qu'il ressentait, et donc de créer ce lien-là et cette empathie-là.
Dobré odpoledne, milí posluchači, na vlnách Československého rozhlasu vás vítá Milan Weiner.
Stojíme!
My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači jakéhokoliv věku, o lži nestojíte. Víme, že tu pásku má u sebe někdo z redakce. Chtějí to odvysílat.
Bojujeme za svobodu slova. Jakoby.
Thomas, c'est bien plus qu'un journaliste. C'est ici un militant.
Could be then later, like in the second half, he becomes a hero. Let's say.
Il le devient en fait, ça devient un héros. Il devient au fur et à mesure. C'est vraiment en fait qu'il suit le voyage en fait du héros. Il vient en fait, il commence en étant extérieur en fait, puis il devient presque un anti-héros, puis il a une transition. Et cette transition se fait au contact avec les héros qui l'entourent, avec les personnes qui l'entourent, parce que la pensée c'est que on est qui on rencontre, on est les gens avec qui on passe du temps, en fait, autour de nous. C'était ça que je voulais raconter.
Les habitants sont aussi une sorte de journalistes citoyens. Ils ont participé aussi, d'une manière ou d'une autre, à cette radio.
Yeah, we have it in the movie, the scene where when Čermák, one of the journalists, is...
Oui, en fait, il y a une scène où en fait, Tcherna, qui est un journaliste en fait et qui interviewe des passants sur ce qu'ils ont vu, vécu, entendu, etc. Donc il y a ça. Il y a aussi une autre scène qui au final a été coupée au montage, qui ne fait pas partie du film, où en fait vous avez les citoyens qui, quand ils découvrent où se passe l'émission, en fait où l'émission est enregistrée, ils leur amènent de la nourriture, ils leur amènent en fait des choses pour que justement les soviets ne les trouvent pas. Donc effectivement, c'est un effort de groupe, c'est un effort citoyen.
Comment vous mettez en scène l'information?
Yeah, you simply need to depict the journey of the news, and once you see that it's moving and it's spreading.
Le fait, en fait, on dépicte, on décrit en fait le voyage en fait des informations. Ça va d'un point A à un point B, etc. Donc en fait, c'est comme ça qu'on donne vie, en fait, qu'on donne corps aux informations.
Somehow, but yeah, that's it.
Et vous donnez vie, vous donnez corps aussi par ces lumières, par ce son, si ce travail sur le son, sur ce vrommissement aussi, sur ce côté électrique. C'est ça aussi, il y a toute une ambiance.
Yeah, sound is very important for me, and honestly, the sound here in this cinema wasn't very good.
Oui, absolument. Donc le son, en fait, dans le film, est extrêmement important. Si je veux être honnête, le son de ce cinéma aujourd'hui n'était pas terrible, parce qu'il y a certains sons, en fait, qui n'ont pas été entendus, en fait, du film. Donc c'est un son qui vraiment, c'est un film, pardon, qui est fondamentalement sur le son. Et c'est très important, en fait, que avec l'ensemble de l'équipe, on soit sur la même longueur d'onde, en fait. Donc c'est important, en fait, de communiquer les références avec l'ensemble de l'équipe, parce que sinon on travaille sur le même projet. Sinon, en fait, c'est un festival de déception. Donc, en fait, ma productrice Monica, qui est géniale, justement, a été absolument géniale. Donc, sur le choix des coéquipiers, je le dis toujours, en fait, ça peut paraître un peu galvaudé, mais c'est absolument vrai comme expression. C'est que je dis toujours, en fait, je n'ai pas fait ce film seul. Si je l'avais fait seul, ça aurait été même pas la moitié, en fait, de ce qui a été réalisé.
Greta Pascal. Já o žádný pasce nic nevím. Tomáši, přece mě v tom nenecháte. Já přece nebudu na nikoho donášet.
Myslím, že tady máme špatně. Aujourd'hui, on est dans cette course presque à la fake news. C'est important de faire ce film et de le montrer aujourd'hui, le vrai travail du journaliste.
I think there are not many historical events that would really mirror.
Donc oui, c'est en fait il y a pas beaucoup de faits historiques qui pourraient être vraiment en fait qui pourraient refléter vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans les années 60. Il y a quelque chose en fait de sensible, en fait de particulier, c'est passé pas seulement en République tchèque, partout en Europe, même aux États-Unis avec le mouvement hippie. Et en fait, c'est ce genre de grands événements de dynamique en fait du monde qui arrive quand tout va trop vite en fait, quand il est difficile de garder le rythme et on se retrouve en fait dans un hiatus en fait commun. Et donc, ce qui rend des événements fascinants et terrifiants à la fois.
Ça a changé votre rapport à l'écoute de la radio.
It was more that it was the reason that I started writing the film that I love radio. I was very and I've been always fond of it already as a child, even though I didn't understand.
C'est surtout en fait pourquoi j'ai fait ce film. En fait, j'ai toujours aimé la radio, même enfant, même si je comprenais pas les informations, j'ai toujours aimé la sensation d'écouter la voix de quelqu'un. Je crois que à cœur, en fait, je suis un journaliste. Je l'ai étudié, même si je ne travaille pas, en fait, je ne travaille pas comme journaliste. En fait, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et on me dit souvent, effectivement, que c'est un hommage à la radio. Alors, pendant longtemps, j'ai lutté, en fait, j'ai refusé ça, mais je pense que c'est probablement effectivement un hommage à la radio.
Vous êtes réalisateur mais aussi documentariste avec ces archives aussi qui donnent aussi plus de poids encore à la fiction.
Yeah, but it's more a part of the feature filmmaking than.
Oui, alors ça fait plus partie en fait de la fiction en fait que du documentaire, mais je comprends en fait ce que vous voulez faire parce que ça rend quelque chose d'unique en fait dans le film, et c'est parce que c'est quelque chose qu'on fait pas très souvent en fait dans la fiction. C'était quelque chose en fait qui était très drôle en fait à faire, mais ça rajoute en plus dans la production même du film parce que ça nous donne des images en fait qu'on n'aurait jamais eu les moyens de tourner.
Vous avez entendu où est-ce qu'elles sont conservées, c'est les vraies bandes de ces radios.
Sure. It's quite famous. Like, as I say, we celebrate the anniversary. We commemorate the anniversary of 68.
Oui, absolument. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on fait des commémorations tous les ans, en fait, de ce qui s'est passé en 68. Donc, il y a beaucoup de documentaires avec les enregistrements originaux et surtout, en fait, de l'annonce de l'invasion, en fait, du territoire tchèque. C'est des phrases, en fait, on connaît, en fait, les phrases par cœur. Mais, bien sûr, en fait, les soviétiques ont voulu, en fait, faire oublier ce qui s'est passé. Donc, ils ont effacé certains enregistrements. Non pas seulement, en fait, les reportages à ce moment-là, mais l'ensemble en fait des reportages en fait qui s'y référaient, même du début en fait des années 60, et pour faire oublier justement ces événements là donc c'était mais c'est grâce aux enregistrements individuels en fait des citoyens qui ont enregistré chez eux que on a pu avoir ces enregistrements en fait de ces émissions, et j'ai tout écouté, ça m'a pris 6 jours.
Vous avez fait le choix de prendre des archives vidéo, mais pas audio, en fait. Pourquoi ce parti pris ?
why I use the visual archive and not the
radio archive.
Okay. Well, the visual archive had this production value.
Pour les visuels, en fait, on en a parlé. C'est vraiment il y a une importance en fait en termes de production, en termes de ce qu'on pouvait montrer. Pour en ce qui concerne les enregistrements audio, c'est que ça, si on a en fait, on a les personnages qui parlent en fait, et si on leur fait écouter une autre voix, elles voient des personnages tels qu'ils étaient, enfin des personnes telles qu'ils étaient en fait, c'est une voix différente, et donc il y aurait une rupture émotionnelle. Donc en fait, on sort le public de cette histoire. L'exception à cette règle, c'est Dubček. En fait, on a fait un choix, sciemment le choix, de ne pas le faire parler, de ne pas entendre sa voix, de ne pas faire parler le personnage jusqu'au dernier pour justement entendre son discours qui est extrêmement puissant.
Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
My pleasure.
Do budovy nám vlítla státní bezpečnost a vy pořád děláte, jako by
nic jsme našli.
Jsi to prdele myslel? Ty vůbec nevíš, co to je, o nikoho se bát.
Odpojili.
Jsme s vámi.
Écoutez le cinéma en région sur Radio Scarpe 100.
Musique du film Tempête de Christian Duguay, le compositeur Michel Cusson. Zoé a grandi au milieu des chevaux et n'a qu'un rêve, devenir jockey. Voilà le synopsis de ce film. Et aujourd'hui, en salle, un autre film tourné en région va vous emmener au galop à la rencontre de ces jeunes jockeys, les lads. Au festival de Valenciennes, rencontre avec Julien Menanteau pour son film Lads. Reportage sur Radio Club et Radio Scarpe 100.
Lumière sur votre cinéma, sur la plus locale des FM.
Ça fait combien de temps que t'es pas monté sur un cheval?
2 ou 3 ans.
Tu te fous de ma gueule? Je t'ai trompé d'adresse. Ici, c'est pas l'armée du salut.
Sur 100 lads, il y a un gars qui deviendra jockey. Les autres cureront les bugs jusqu'à la fin de leur vie.
C'est quoi l'histoire avec ton bracelet?
Je me suis fait serrer pour vol.
Un cheval, il suffit de l'effleurer. Tout est dans les cuisses et l'inclinaison du bassin.
Tu veux que je t'aide?
Ouais.
Bon courage.
Lads, c'est l'histoire d'un apprenti jockey dans une écurie de course.
dans une écurie un peu particulière et une discipline particulière du galop qui est le steeplechase. C'est la discipline la plus violente du galop, donc c'est des courses avec obstacles. Et c'est l'histoire de l'ascension d'un apprenti jockey qu'on appelle un lad dans ce monde assez impitoyable et ce désir de s'en sortir socialement à travers une discipline qu'il connaît peu au début du film, dans laquelle il va se former et dans laquelle il va se rendre compte qu'il a ce qu'on appelle une bonne main, c'est-à-dire un don. Et voilà, il va essayer de naviguer et d'avancer dans ce monde-là, tout en découvrant ses travers et en même temps l'amour des chevaux.
Lads est le premier long-métrage de Julien Menanteau tourné à Chantilly, dans l'Oise, en Hauts-de-France. Ce film a été présenté en avant-première régionale au Festival de cinéma de Valenciennes. À l'issue de la projection, rencontre avec le cinéaste qui a grandi dans le milieu équestre.
Exactement, moi je viens d'une famille de cavaliers, mais je suis le vilain petit canard de cette famille-là. C'est-à-dire que moi je monte pas à cheval ou très peu, mais c'est un monde que j'ai côtoyé gamin sur les hippodromes pendant longtemps. Et j'ai toujours eu l'envie de raconter cette histoire des apprentis jockeys, qui est une histoire en fait finalement une histoire d'ouvrier, quoi, d'ascenseur social.
Vous venez du documentaire et ça se sent puisque vous filmez avec en même temps vitesse, avec cette vitesse des chevaux, avec cette course effrénée et en même temps cette précision des gestes.
Oui, exactement. En fait, moi, on a tourné dans des vraies écuries de course, notamment sur le premier acte où on voit tous les gestes, ce qu'on appelle les entraînements du matin. Donc, en fait, les apprentis jockeys, les lads qui se réveillent à 4h du mat pour aller monter les chevaux dès 5h, 5h30. Et donc, voilà, c'est quelque chose que je voulais raconter et raconter bien de façon documentaire pour pas créer une œuvre fictionnelle qui soit totalement à côté de la plaque. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de très précis et en fait de prendre effectivement Marco Luracci dans le rôle principal, qui est un cavalier émérite. Enfin, c'était une chance énorme en fait d'avoir quelqu'un qui puisse à la fois jouer la comédie lors des séquences à pied et puis qui puisse monter à cheval lors des vraies courses. Et en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas de cascadeur, en tout cas il n'y a pas de doublure cascale, c'est lui qui est de tous les plans, que ce soit à terre ou sur les chevaux pendant les courses.
C'est vrai que le milieu équestre est peu filmé au cinéma, peu filmé comme vous avec une telle précision, et puis vous rentrez aussi dans les coulisses avec un montage assez haletant.
Oui, c'était l'idée, c'était d'avoir quelque chose de très cut. On a travaillé beaucoup avec Nour Ben Salem au scénario pour avoir quelque chose qui est effectivement ce qu'on appelle un page-turner, quoi, enfin, qui nous emmène d'une séquence à l'autre avec de l'émotion et avec du suspense. Et puis en montage aussi, les films se font beaucoup en montage. Je dois beaucoup à la monteuse qui s'appelle Manon Falise. On a fait un gros travail pour avoir du rythme et puis aussi en musique, parce que c'est pas un documentaire, c'est un film de fiction. Donc la musique a été composée par Jack Bartman, qui est un compositeur de musique avec qui je travaille depuis longtemps et qui fait de la vraie musique de cinéma.
De l'écriture jusqu'à la musique, il y a un travail sur le rythme notamment.
Oui, le rythme c'est très important sur un long métrage qui fait 1h30. C'est que, enfin, moi j'ai eu un retour de spectateur là à l'instant qui me fait chaud au cœur, qui me dit on n'a pas vu le temps passer. Ça c'est super parce que voilà, le film est ramassé, il fait 1h30, mais le fait que ça passe vite comme ça, comme un couperet, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, quoi.
Marco Luracci, cascadeur équestre au cinéma, joue le rôle d'Ethan, 17 ans. Il devient apprenti jockey dans une écurie d'obstacles, l'épreuve la plus violente du galop. Julien Menanteau filme les coulisses des préparations de courses hippiques et ses métiers essentiels à son bon déroulement.
L'artisanat, c'est quelque chose qui est important dans ce film-là. C'est un film qu'on a fait de façon artisanale, même à la production. Et puis de montrer en fait le début de ces jeunes-là. Enfin, c'est un film qui raconte... C'est pour ça qu'il s'appelle Lads, quoi. Un Lads, c'est vraiment un apprenti jockey. Si on était déjà sur un personnage qui était déjà en haut de l'affiche, le film se serait appelé Jockey. Là, on est sur les premières années d'un jeune qui essaye de faire son trou dans ce milieu-là, quoi.
Marco Luracci est célèbre dans la famille Luracci, c'est le fils de Mario Luracci, célèbre justement cascadeur équestre. Pour cette avant-première, il a dit « Finalement, j'ai réappris à monter à cheval. »
Oui, parce qu'en fait, la monte jockey, c'est pas la monte de cheval andalou, par exemple, ou... Voilà, c'est qu'elle est, Marco, c'est quelqu'un qui est cascadeur cheval, donc qui a tendance à faire des pirouettes. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir la posture de jockey. Donc, il a pris des cours dans une vraie écurie. Et puis, il a appris très vite parce qu'en fait, il est très à l'aise là-dessus. Et puis, j'ai même envie de dire qu'il y a quelque chose qui est intéressant parce que quand il commence dans le film, il est censé ne pas connaître grand-chose. Donc, ça a été presque l'inverse, en fait. Moi, j'avais un acteur total qui était à la fois un superbe comédien et un superbe cavalier et qui, dans le début du film, doit faire semblant de ne pas connaître. Et il doit faire semblant justement de pas savoir monter au début. Donc en fait, plutôt que d'apprendre, il a dû désapprendre un petit peu. Et puis à la fin, il y a des vraies séquences de course avec des vrais pur sang entourés de vrais jockeys. Et lui, il est au milieu de ce lot-là.
Et ça fait quoi aussi d'écrire un film, de le réaliser et finalement de faire monter aussi Marco Luracci en haut finalement de la scène, puisqu'il a reçu le Valois du meilleur acteur à Angoulême?
Bah, c'est super de grandir ensemble en fait. Moi, c'est mon premier long métrage pour le cinéma, lui c'est son premier rôle principal, donc on partage cette première fois. Et je lui dois beaucoup, le film lui doit énormément. Il est magnétique dans le film, vraiment. Et je suis ravi de cette collaboration qui, j'espère, en amènera beaucoup d'autres.
Sur le tournage notamment, c'est important pour vous de tourner dans les Hauts-de-France?
Oui, c'est très très important. Dès le scénario, le film se passe entre Chantilly et la Belgique. Donc le film était écrit comme ça, très régionalisé. Et je remercie encore la région Hauts-de-France et Pictanovo de nous avoir aidés à l'écriture, au développement et à la production, d'avoir cru dans ce film-là et d'avoir permis de le tourner ici plutôt qu'ailleurs. Il faut savoir que Chantilly, c'est la capitale du galop mondial. C'est un endroit que le monde entier nous envie et ça aurait été aberrant de le faire ailleurs. En tout cas, moi, j'avais très, très envie de le faire ici. Moi, j'ai des ancrages dans la région. Je passe beaucoup de mon temps dans l'Oise, dans lequel on a une maison de famille, pas très loin de Chantilly et de la Morlaix. Et c'était important de le faire ici. Et encore une fois, merci à Pictanovo.
Voilà. Super. Super. Allez. Ouais, allez, c'est bien,
bon. De pratique, mais la position est bonne.
Il y en a qui mettent des années à choper ce truc-là. Hein.
Ouais. Dommage que ce soit une tête à claque.
Si on cherchait des enfants de cœur, on changerait de métier.
Voilà, bon, c'est bien.
Extrait du film Lads de Julien Ménanto, en salle le 19 mars 2025 avec Marco Luracci, Jeanne Balibar et Marc Barbet. Un long métrage soutenu par Pictanovo avec la région Hauts-de-France. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Ça fait des années que je me prépare pour cette course.
Oh, c'est con.
Je ferai jamais partie de leur monde. Tu vas rester à ta place. Pas question que tu me passes devant, c'est clair?
Pas de ça ici!
La rage que t'as à l'intérieur, garde-la pour la piste.
C'est qui eux?
Tes vrais patrons. Sans leur argent, il y a longtemps qu'on serait au chômage.
À Paris truqué, ça rapporte 10 fois plus gros qu'une course gagnée.
On va leur montrer ce qu'on a dans le ventre.
L'AD de Julien Menanto avec l'excellent Marco Luracci, un nom à surveiller. Le film sort aujourd'hui 2 avril, accompagné d'autres films en ce jour. Amateurs de jeux vidéo, vous allez aimer ou non Minecraft, le film avec Jack Black. Amateurs de BD, l'adaptation Natacha, presque hôtesse de l'air avec Camilou, tournée en région. Et puis si vous aimez Michel Blanc, Le Routard, avec Hakim Jemili, Christian Clavier et Michel Blanc, l'un de ses derniers rôles. Merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission et les précédentes sur radioscapsoncé.com. Et puis jusqu'au 5 avril, le FIGRA, 32e édition. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur figra.fr. D'ici là, vous le savez, n'oubliez pas, allez au cinéma.
Scarp Ciné, séquence 14. Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensée, ça tourne.
Et action!